Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com. Aube, épisode 8.
Si le 20e siècle a été marqué par l'État-nation, on dit que le 21e siècle sera le siècle des villes.
Déjà plus de 50% des humains vivent dans un contexte urbain.
Ce sera 66% en 2050.
Depuis toujours, la ville joue un rôle dans l'histoire de l'humanité.
On n'a qu'à penser à Rome de Jules César, Paris de Louis XIV ou Londres de Sherlock Holmes.
Qu'est-ce qui a bien pu pousser les humains à se rassembler à un point tel qu'aujourd'hui, certaines cités rassemblent plus de 20 millions de personnes?
Dans ce 8e épisode, Aube s'est penché sur l'urbanité.
Entrevue avec Richard Ryan, conseiller à Projet Montréal sur le nouvel urbanisme.
L'architecture écologique au 21e siècle de Jourda et Pérodin.
La poésie urbaine et le rythme de la ville.
De plus, un radiothéâtre avec Perdu dans Babylone, l'utopie Spodamos à Milet, un peu de compostage urbain et la réappropriation de nos églises.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience.
Le mot-clé, Babylone. Une ville, c'est comme de l'eau qui bouille. Dans toutes les bulles, il y a un humain qui, à force de se cogner à d'autres humains, risque de changer d'état à tout moment. Cette soirée-là, à Montréal, ça bouillait vraiment fort. On dirait qu'au printemps, il y a quelqu'un qui met Montréal à max heat, puis quand arrive juillet, ça déborde de partout. On était place des Arts, il y avait plein de monde dans les rues. Toutes les milliers de gouttes d'eau de Montréal qui étaient venues voir leur ville en spectacle. C'était un groupe qui avait commencé à jouer dans un loft, dans un quartier cool de Montréal, mais avant que ça soit cool d'habiter là. C'est que l'hiver, dans les endroits où il fait encore chaud, comme dans les lofts, les petits studios, les bars, les cafés, puis les locaux des assos étudiantes, les réactions chimiques se poursuivent. La créativité humaine reste en ébullition. Ce soir de juillet-là, on était 300 000 dans notre centre-ville à écouter notre créativité. Toutes les gouttes d'eau ensemble, au même endroit. Plus moyen de faire autrement que de suivre la foule, même si on dirait que tout le monde va à contre-courant. C'est ça aussi une ville. C'est un espace de créativité qui bouillonne. Ça donne envie de réaliser ses rêves. C'est pour ça qu'on est hypnotisé par leur gratte-ciel puis leur haute lumière. Toute la ville était là, fait qu'on croise plein de monde. C'est bouillant, propice aux rencontres. Mais moi, je voulais juste rencontrer Sarah. Nos chances n'étaient pas très bonnes, c'était plus facile de se perdre que de se retrouver. Mais malgré le désordre qui règne dans notre foule qui bouillonne, on a réussi à se rejoindre par un mélange de coups de téléphone et de coups du destin. C'est ça aussi une ville. C'est New York de Annie Hall, c'est Midnight in Paris. Les villes, c'est pour les romantiques. Je suis avec Sarah, dans la foule de 300 000 personnes, hypnotisée par la musique et les hautes lumières. J'ai pris Sarah par la main puis on s'est enfoncé dans la foule. On se serait perdu à essayer de se rendre jusqu'à la scène puis il n'était pas question qu'on se perde. On s'est trouvé une petite bulle juste à nous. Une bulle juste assez grande pour deux. Collée. Je l'ai serré dans mes bras. On a dansé un slow avec tout le monde, là, rassemblé, qui bougeait ensemble, doucement, au même rythme. On faisait partie d'un tout. Dans notre petite bulle à nous, mais au milieu de plein d'autres bulles. En 2050, on va être 80% de l'humanité à vivre dans les villes. Ça fait 8 milliards de gouttes d'eau qui s'entrechoquent. 8 milliards de créativité qui se rencontrent. 8 milliards d'histoires d'amour. Après le show, moi et Sarah, on s'est trouvé une petite butte de gazon. Inspiré par les hautes lumières qui nous disent que tout est possible et qu'on peut réaliser nos rêves, on a laissé aller notre créativité. C'est ça aussi une ville. C'est des humains qui se rencontrent, puis ça crée de la chaleur.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'affaires.
L'impact positif que ça a quand on s'en va vers une ville à échelle humaine, c'est le sentiment d'appartenance. Moi, j'ai élevé ma fille a 14 ans, j'ai élevé ma fille dans le Milan, puis quand que je la vois dominer dans un sens large, dominer son quartier comme tous ses amis, parce qu'elle a grandi, elle est allée au CPE à côté, à l'école loin de la rue, puis l'école secondaire pas très loin, tu te dis c'est merveilleux.
Je veux te dire une chanson sur la couleur du temps des sons, avec des tons de nuit le jour qui dansent et mordent à l'amour.
Moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais c'était pas la banlieue. Aujourd'hui, la moitié de Saint-Jean vient travailler dans la région de Montréal. Mais là, on peut parler de banlieusarisation de Saint-Jean. C'est un peu ça, mais sinon, Saint-Jean, c'est une ville autonome avec ses entreprises et son cœur de ville et tout ça. Mais on a commencé à tuer Saint-Jean en construisant un centre d'achat, comme la chanson le dit. J'étais allé à des funérailles à grand-mère, à côté de Shawinigan, puis c'est triste à voir le plein centre, la ville. On a créé une rue à sens unique, à double voie, avec du parking chaque bord d'un sens, puis la rue parallèle dans le sens inverse, toujours à double voie, pour que les chars roulent vite. Hey, c'est un village, c'est supposé être un des cœurs de village, là. C'est supposé se promener, ça soit agréable, qu'on élargisse les trottoirs, qu'on plante des arbres, puis qu'on réduise la circulation automobile, ça n'a aucun bon sens.
Je veux te parler d'un jardin dont les fleurs portent le venin, sorti du ventre d'un oiseau qui s'est changé le vin en eau. Je veux te dire une nation au terme de sa gestation.
On continue dans certaines villes à développer la ville en fonction de l'automobile, en fonction de la circulation. Ben, la conséquence, c'est l'espace public. L'espace public n'est pas infini. L'espace public, c'est pour les piétons, c'est pour du verdissement, c'est pour de la construction, c'est pour les cyclistes, c'est pour l'automobile. Donc, c'est pour les transports. De penser automobile, ça veut dire que tu réduis le nombre de tout cet espace-là aux autres possibilités qu'on peut faire de notre ville. Si on veut, quand on pense une ville à échelle humaine, qu'on veut faire davantage de place aux piétons, par exemple, aux cyclistes, à planter des arbres, ça va être un grand défi dans le siècle qu'on est présentement, de verdir, de planter, d'assainir notre air. Il faut trouver de l'espace pour ça. Et l'espace, souvent, dans des quartiers densément construits comme les nôtres, c'est souvent dans la rue. Je donne l'exemple du parc La Haye, où est-ce qu'on a enlevé la rue Saint-Dominique, où est-ce qu'on en a fait une place publique. Il y avait Il y avait une trentaine de places de stationnement sur cette rue-là. Aujourd'hui, allez voir la belle église Saint-Enfant-Jésus avec la fontaine en avant, avec la place publique qui est là, la plantation des nouveaux arbres, le parc a été refait avec des nouveaux sentiers, tout ça. C'est super. On a donné de la beauté au quartier en refaisant cette place-là. Cette place-là qui, historiquement, était un square civique avec l'ancien hôtel de ville Saint-Louis-de-Milan, avec la première église du plateau Mont-Royal, qui est Saint-Enfant-Jésus, la banque. Ça existait il y a 100 ans, ces bâtiments-là. Et là, on redonne les lettres de noblesse à un lieu et a fallu prendre la place de l'automobile pour le faire parce qu'il n'y en a pas de place. Il n'y en a pas le choix d'en arriver. Si on veut se donner de la beauté, et c'est bon pour les commerces autour, c'était bon pour tout le monde. Justement, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord du mur? On voit souvent le réaménagement. C'est cool, c'est le fun, c'est beau. On a emmené de la beauté. Après ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est dans un feeling, pas juste un feeling, un espèce de processus de gentrification. C'est pas juste la beauté qui est amenée sur la rue, qui amène la hausse des valeurs, mais ça y participe, ça y contribue. Et là, il y a bien du monde qui sont exclus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emmener ce nouvel urbanisme-là, l'urbanisme de beauté, il faut l'emmener à réfléchir à comment garder cette mixité à long terme. Mixité sociale en résidentiel, mixité sociale en emploi, le petit emploi, le petit atelier, que la personne qui est moins fortunée, qui a toujours vécu ici, des fois depuis deux générations, il souhaite rester dans son quartier ou qu'il l'a vu grandir, qu'il l'a vu naître, qu'il puisse continuer à se développer. Pas forcé de déménager. Si tu veux déménager, tu vas aller vivre ailleurs, c'est ton choix. Mais quand si tu n'as pas le choix de déménager parce qu'il y a une trop grande hausse de loyer, ben ça, c'est malheureux. Pourquoi le développement économique à travers ça? Pourquoi garder la mixité pour le développement économique? Parce que, d'un, en emploi, on a besoin de plusieurs types de classes sociales pour travailler dans les différents endroits. Puis c'est, je pense, dans le développement durable, ça, on va nous emmener à ce qu'on demeure le plus près possible de notre lieu de travail. Ça va de soi. Mais aussi, ça emmène la diversité que ça emmène, la mixité, emmène aussi d'autres grands joueurs. On n'est pas contre les gros joueurs. On n'a pas besoin de les aider, eux. Ils vont venir tout seuls. On crée cette mixité-là, puis si on la garde, la mixité, à long terme, ils vont venir de toute façon. Comme dans la rue, dans la nouvelle rue réaménagée, verdie, avec un banc et tout ça, t'es sur le coin de la rue, l'automobiliste peut te voir quand t'arrives au coin de la rue parce qu'il n'y a pas d'auto stationnée sur le coin, puis le trottoir était élargi, puis il y a du verdissement, puis c'est agréable. La même chose quand tu rentres dans le café et qu'il te donne, il te prépare déjà ton café avant même que tu y as dit ta commande. Ben, c'est un sentiment de sécurité, de convivialité, un sentiment d'appartenance. Et tout ça ensemble, c'est ça qui forme le milieu. Donc, il faut réfléchir autant à l'intérieur, l'autre côté du mur de briques, que sur la rue. Puis on va y arriver. Je pense qu'on n'a pas juste à rêver. Je sais que vous, dans votre émission, vous nous emmenez à rêver. La transformation va se faire par de la volonté. Oui, il va y avoir à un moment donné des petits accrochages entre des parties de population et des décideurs qui vont avoir le courage d'aller dans ce sens-là. Mais il n'y a pas de retour en arrière après ça.
Richard Ryan est conseiller du Milan dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal.
En 494 avant Jésus-Christ, l'armée de Darius, roi des Perses, détruit et rase la ville de Milet située entre Halicarnasse et Éphèse. Les anciens habitants demandent alors à l'architecte Hippodamos de reconstruire d'un coup leur cité tout entière. Il s'agit là d'une occasion unique dans l'histoire de l'époque. Jusque-là, les villes n'étaient que des bourgades qui s'étaient progressivement développées dans la plus grande anarchie. Athènes, par exemple, était composée d'un enchevêtrement de rues, véritable labyrinthe qui avait vu le jour sans que nul ne tienne compte d'un plan d'ensemble. Être chargé d'ériger dans sa totalité une ville de taille moyenne, c'était se voir offrir une page blanche ou inventer la ville idéale. Hippodamos saisit l'aubaine. il dessine la première ville pensée géométriquement. Il ne veut pas seulement tracer des rues et bâtir des maisons, non. Il est convaincu qu'en repensant la forme de la ville, on peut ainsi en repenser la vie sociale. Il imagine une cité de 5000 habitants, répartie en trois classes, artisans, agriculteurs et soldats. Hippodamos souhaite une ville artificielle, sans plus aucune référence avec la nature, avec au centre une acropole d'où partent 12 rayons, la découpant tel un gâteau en 12 portions. Les rues de la Nouvelle Millée sont droites, les places rondes et toutes les maisons sont strictement identiques pour éviter toute jalousie entre voisins. Tous les habitants sont d'ailleurs des citoyens à parts égales. Ici, il n'y a pas d'esclaves. Hippodamos ne veut pas non plus d'artistes. Les artistes sont, selon lui, des gens imprévisibles, générateurs de désordre. Poètes, acteurs, musiciens sont bannis de Millée et la ville est également interdite aux pauvres, aux célibataires et aux oisifs. Le projet d'Hippodamos consiste à faire de Millée une cité au système mécanique parfait qui jamais ne tombera en panne. Pour éviter toute nuisance, pas d'innovation, pas d'originalité, aucun caprice humain. Hippodamos a inventé la notion de bien rangé. Un citoyen bien rangé dans l'ordre de la cité, une cité bien rangée dans l'ordre de l'État, lui-même ne pouvant être que bien rangé dans l'ordre du cosmos.
Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com.
Des belles choses à voir, toutes sortes d'affaires à découvrir, c'est bête, les indifférents doux. Les feux de raffinerie brûlent au coton, l'argent circule vive, le progrès, mais bouge ton nez avant d'y aller. Défiler le nombre d'ennemis, mille de longs qui attendent l'autobus en sacrant au son d'une fanfare de klaxons. Mille personnes dans une usine qui compte le reste des minutes avant le break, qui pense à la brosse du samedi soir. Enfants vont s'acheter des chips avant d'aller jouer au cowboy au cœur de la ruelle en poubelle. Il y a tellement de taux qui reste rien que du parfum, l'exhaust à respirer, l'asphalte envahit la terre. La parade des décibels arrive avec les trappes puis les avions, suivis par les marteaux pilons. Tous les transistors sont en train de cracher leur musique en canne qui déboule comme d'immenses monopondus. Les panneaux réclames sont tellement gros que le ciel s'est transformé en bière, en cigarette puis en Pepsi. Les buildings de sol étage sont au sang de son fait fondre, respirant l'horizon perpendiculaire.
Mais je n'aime ma ville qui se marre. Ce serait pas facile d'être
estimé, c'est pas cher, ça vaut son âme, c'est pas compliqué. Amenez le votre stock, on est là pour le consommer. De toute façon, c'est pas nous autres qui décidons. Les vitrines, la grosse Catherine sont pleines de belles bébelles, mais les vendeurs d'Aïs, si tu sors pas d'ambiaste. Va plus vite, petit gosse, pas le temps de rêver aux îles du Sud. La job t'attend, presse jouer parce que le temps, c'est de l'argent. 100 000 bonhommes qui sortent la sorte tout en même temps. Qui se disent à ce tichin en contact, c'est soit fini. Dans ma ville, y a des belles choses à voir, toutes sortes d'affaires à découvrir. C'est bien plaisant d'y faire un tour.
Ça prend le métro, man. Tu fumes un buzz, tu descends dans le métro, tu mets du gros hip-hop, genre. Puis là, tu regardes le monde agir. Tout le monde est en mode attente.
Bon.
Vous êtes à l'écoute de Aube.
Métro Mont-Royal.
Le métro Mont-Royal avec le van en face. Tu sais, quand t'arrives aux portes, genre, c'est l'hiver. Puis là, tu portes ta tuque qui chante.
Suite à l'entrevue de Richard Ryan en début d'émission, les décideurs du Grand Babylone ont décidé d'injecter des milliards de bidoux pour végétaliser et transformer les toits de la métropole. Aube a donc dû dépêcher d'urgence deux chroniqueurs sur le terrain afin de constater les faits.
Mais où sont tout le monde?
C'est étrange, on dirait que les rues ont été laissées à l'abandon. C'est vraiment étonnant. La végétation a comme repris ses droits.
Hey! Regarde sur les toits!
Hey, oh! En bas! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes malade de marcher dans les rues?
Comment on fait pour monter?
Tu vois la balançoire là-bas? Tu t'assois dessus et tu tires sur la corde, on va te faire grimper. Allez, on tire!
Oh, Whis! Oh, Whis!
Une fois sur le toit des immeubles, l'émerveillement peut se lire sur le visage de nos deux comparses. La vie semble s'être redéfinie à partir du toit des immeubles. C'est comme si toutes les occasions étaient bonnes pour abandonner le fin fond des canyons de pierre et les labyrinthes de béton pour organiser une nouvelle vie sur le toit de la cité. Puisque tous les immeubles du quartier se retrouvaient être à la même hauteur, l'horizon au-dessus de Babylone est maintenant verdoyant et luxuriant, et ce, à perte de vue. Des arbres, des lianes, des lierres, des fleurs et des jardins partout autour d'eux. Les animaux sauvages se baladent maintenant librement entre les différents îlots de toiture luxuriants. Des terrasses et des cafés ainsi que des nouveaux commerces en hauteur ont ainsi vu le jour sur le toit des immeubles. On accède maintenant aux habitations par le toit, par des escaliers en colimaçon menant au niveau inférieur. Un service de minirail électrique a même été conçu afin de desservir les différents îlots de toiture. Nos deux chroniqueurs abasourdis n'en croient pas leurs six sens.
Je savais que la radio pouvait avoir de l'impact, mais en si peu de temps.
Regarde là-bas, des oiseaux. Je savais pas qu'il y avait encore des oiseaux à Babylone.
Attends un peu! Un troupeau de chevreuils en plein cœur de la ville!
Les dirigeants ont décidé de relâcher les animaux les plus adaptés au climat d'ici. Ils les ont munis d'un système de repérage pour les récupérer pendant leur période d'hibernation, si le besoin s'en fait sentir. Voilà pourquoi il est devenu si dangereux de marcher sur le plancher des vaches. Hier encore, un cougar attaquait un adolescent insouciant au Parc La Fontaine.
Hein? Quoi?
Un cougar?
Oui, ils sont en train de tourner un documentaire sur le sujet, là, car Babylone s'est maintenant décrétée réserve mondiale de la biosphère, ce qui attire maintenant les touristes du monde entier.
Ah! Oh, et les essences d'arbres qui sont maintenant cultivées, noix, fruits, matières ligneuses, bois exotiques...
Oh, wow! Quel jardin!
Dans le ciel! Un épervier!
Ah, vous n'avez pas fini de vous en émerveiller, vous deux! Vous voulez que je vous serve de guide?
Ah, oh, ben oui!
En mini-rail!
Nos deux émissaires en terre babylonienne empruntent le mini-rail en compagnie de leur nouveau guide et ami. Il leur explique l'historique de la profonde mutation entre métropole surpeuplée et polluante et éco-cité axée sur la satisfaction des besoins de ses habitants. Jour 1, la révolte entre les humains et la cité-machine construite pour les voitures. Mais ça, vous le saviez déjà. Jour 2, la fermeture de certains quartiers à forte concentration humaine avec construction d'immenses stationnements en périphérie de la ville. Jour 3, mise sur pied du premier sentier aérien pour les piétons et les vélos qui peuvent maintenant traverser la ville en diagonale. Jour 4, installation du mini-rail le long des sentiers aériens et début de la réappropriation des toitures. Jour 5, abandon total des rues et fermeture de la ville aux automobiles. Invention maintenant totalement désuète puisque le réseau de transport en commun est devenu tellement efficace. Jour 6, réintégration des rivières originales dans les grands boulevards. Le sport à la mode ces jours-ci est le rafting de ville.
Hey, c'est vraiment inspirant cette histoire-là.
Et enfin, pour jour 7, relâchement des espèces prisonnières des zoos et autres parcs thématiques. Et voilà, en peu de temps, le gouvernement babylonien avait enfin réussi à freiner l'exode des jeunes vers la campagne en réglant par le fait même un des plus grands défis de tous les temps, la voiture. Vous n'avez pas encore vu le parc La Fontaine, hein? Véritable zoo à air ouverte. Il est préférable par contre à voyager à bord du mini-rail et surtout de garder vos doigts à l'intérieur.
Tu parlais aussi des rivières à la place des boulevards.
Ah, la plus populaire des rivières urbaines est la Saint-Denis. La voie Camillien-Houde qui tranchait à l'époque la montagne en deux est maintenant une glissade d'eau pour les enfants.
Stupéfiant.
Qu'est-ce que vous avez fait du métro puis de tout ce qui était le Babylone de l'Underground à l'époque?
Ah, tout ça existe encore. Populaire surtout en période de grand froid, mais très rarement utilisé l'été. Le mini-rail glissait silencieusement dans le ciel d'un bleu profond, peuplé d'une faune ailée diversifiée. Nos deux investigateurs questionnaient leur guide sur tous les aspects qui caractérisaient cette utopie d'autrefois, maintenant réalisée.
Guillaume! Guillaume!
Quoi?
Mais réveille-toi, vieux, faut finir de préparer l'émission 8.
Hey, mais j'ai fait un rêve bizarre, là. J'étais sur Saint-Urbain, puis il y avait un épervier, je faisais du rafting. Texte tiré de Aube, le recueil de solutions.
Le compostage a longtemps été une affaire de campagne. Heureusement, ça change. À Montréal, il est désormais possible de composter simplement. En alliant recyclage et compostage, vous pourrez réduire 75 % de vos déchets et moins encore si vous agissez avec le principe de réutilisation. Le compostage avec les boîtes que la ville offre est d'une efficacité enfantine. Bien entendu, il vous faudra sortir pour aller dans la cour, peut-être descendre un ou deux étages, mais ça vaut le coup quand on pense à nos dépotoirs. De plus, le compost nécessite qu'on le retourne régulièrement, bien le brasser. On peut faire ça avec une fourche ou une pelle. Avoir dans la cuisine un contenant de plastique avec un couvercle vous permettra d'attendre quelques jours avant d'aller au composteur. En automne, on recueille la matière totalement compostée pour l'utiliser, celle qui se trouve au niveau du sol. En hiver, la décomposition se fait plus lentement, mais au printemps, elle reprendra de plus belle. Et même si vous n'aviez pas de jardin à engraisser, vous connaissez sûrement quelqu'un qui aura besoin de cette terre riche et grasse. Aux Éco-quartiers, vous pouvez vous procurer un composteur pour 25 $. Tout ce que ça prend, c'est une preuve de résidence et l'argent comptant. Et vous pourrez repartir avec votre boîte à compost. La Ville de Montréal vous propose 6 modèles. Tous sont faits à partir de bois récupéré ou de plastique recyclé. Un seul modèle est conçu pour le balcon, les autres reposent au sol. À mon avis, ceux-là sont beaucoup plus efficaces à cause de la participation des vers de terre, qui aident à la décomposition des matières compostables. À vous de voir lequel des 6 modèles vous convient.
Matière organique pour le composteur. Céréales, fruits et légumes, gazon séché, graines de café, filtre à café, sachets de thé, pain, coquilles d'œufs, mousse de sécheuse, cheveux, plantes de jardin, résidus de balayeuse, feuilles mortes, cendres refroidies, balayures, foin, paille, mauvaises herbes, résidus d'émondage, sur de bois. Matière à ne pas mettre dans le composteur maintenant. La viande, les sauces, produits laitiers, la graisse, fromage, arêtes de poisson, les noix, les huiles, litière d'animaux et excréments, résidus de jardinage qui ne se compostent pas, par exemple les chiens dents, les herbes à poux, herbes à puce, les herbes traitées chimiquement, plantes malades, feuilles de noyer et feuilles de rhubarbe.
Un texte de Julie Francaire, narration Marie-Claude Journeau.
Et Philippe Laramé. Attention! S'il vous plaît! Monsieur, attention!
Hé, hey, oh!
Non, mais regarde où tu vas!
Pardon, s'il vous plaît, madame!
Hé, hey, voyons!
Calme-toi!
Attention! C'est urgent, attention!
Merde! Oh, fais attention!
Mais tassez-vous!
Ah!
S'il vous plaît! Bordel! C'est chaud!
Ouch!
Excusez-moi, mademoiselle! Ah,
oh, pis merde.
Hé, hey, man, tasse-toi.
Tassez-vous.
Fuck, j'ai encore pogné une hostie d'étiquette.
Nous sommes en 1952, dans une terre urbanisée et administrée à l'extrême. Il y a près d'un siècle, les étrangers ont contacté l'humanité et lui ont offert leur science. Les habitants de la Terre devaient préparer leur venue. Ensemble, ils agenceraient leur élévation dans l'échelle universelle. Aujourd'hui, les yeux sont toujours tournés vers le ciel, mais les étrangers ne viennent pas. L'humanité attend toujours, mais son âme a changé. Le visage même de la Terre n'est plus le même. On a construit des villes, puis on les a agrandies, bâtissant toujours plus de buildings, plus de lotissements, d'usines, posant plus de rails, construisant des voies rapides. L'humanité a construit des villes à l'échelle continentale, en Europe, aux Amériques, en Chine, au Japon, en Afrique du Sud et au Proche-Orient. Les Titanopoles. Ces villes-continents et leurs agences centrales ont succédé aux États et à leurs gouvernements. L'Inde et la Russie se sont isolées en choisissant des développements politiques, sociaux, économiques et idéologiques non formalisés. La vie est gérée depuis des complexes bureaucratiques labyrinthiques. Nous sommes tous fichés, numérotés, administrés par des agents. On trie, on tamponne, on archive, on valide, on oblitère, on administre. La santé est une agence, les droits sont une agence, le divertissement est une agence. Le zèle est une drogue en distribution gratuite. Le stress est son effet secondaire autorisé. Des survivances nationalistes et libérales ont donné naissance aux mafias. Cette dernière fait le pied de nez aux agences en se jouant du système. On extorque, on triche, on flingue, on dessoude. D'anciens militaires reviennent fous des guerres de décolonisation et des indépendantistes ont gagné le centre de la Titanopole pour lutter au cœur de la menace des agences. Ils ont créé des groupuscules terroristes. On pose des bombes dans les écoles, on détourne des trains, on coule des bateaux. Les hommes ont refusé le système quand ce n'est pas lui qui les a exclus. Ils sont devenus les égarés. Ces nouveaux nomades et marginaux sont la bohème du macadam. On squatte, on migre, on détourne et on vole. Le métropolitain est devenu une ville sous la ville. On y habite, on y voyage et on y meurt. Le malaise titanopolitain a rendu l'équilibre fébrile. Les Twisted Fifties sont noirs, bancals, tordus. Un tiers de la population n'a jamais vu la mer. Certains n'ont même jamais vu le ciel. La vie est faite de gris, de noir et de blanc. Seules les affiches sont en couleur. Les trains vont trop vite pour qu'on puisse les voir. Les rames de métropolitains parcourent les réseaux souterrains tentaculaires. On peut vivre à Rest-Paris, travailler à Bise-Berlin et faire du sport le soir après le boulot dans un gymnase de l'ex-banlieue londonienne. Tout cela n'est qu'une ville, un gigantesque réseau d'asphalte, de ferraille, de verre et de lumière. Nous en sommes les électrons, montants, descendants, gravitants. Un train à réaction traverse le monde de part en part. Des administrés prennent le transbordeur pour aller au bureau. Des hypertrocs transportent des vivres pour nos bons soldats sur le front Est. Le pneumatique donne l'horoscope tous les matins et rappelle qu'il est l'heure d'aller prendre le tram. Le photofluide crache sa substance sur les écrans mous au rythme des pulsations cardiaques du réseau. Des lignes de métropolitain n'apparaissent pas sur les cartes de l'Agence des transports. Chaque jour, des milliers de personnes les empruntent pour aller dans les zones non administrées de la Titanopole et jouer dans les casinos, faire leurs courses en monnaie sonnante et trébuchante, mettre des pièces mafieuses dans les parcs-mètres. Rien ne va plus. La criminalité monte en flèche. Les directeurs d'agence se laissent corrompre. Les capitaines de police passent leur journée à brailler près de la machine à café. La Titanopole est vérolée. Certains n'arrivent jamais à destination. Des trains sont perdus. Des bateaux n'ont jamais existé. Nul ne sait ce que deviennent tous ces gens. D'ailleurs, êtes-vous sûr que vous aviez un fils? Il n'apparaît dans les registres d'aucune agence, madame. Le Titanopole est amnésique. Les métropolitains sont bondés, il fait trop chaud et les retards sont de plus en plus fréquents. Les berlines carénées des administrés bouchent les rues des secteurs administratifs et commerciaux tels des caillots de tôle dans des artères d'asphalte. Les autogires, sortes d'automobiles volantes, des agents influents noircissent le ciel de leurs essaims bourdonnants. Des maisons disparaissent et nul ne se souvient de leur présence, à part leurs locataires. Des hommes changent, leur peau se fait bitume, leur sang devient gras et noir, leurs articulations se cassent en mécanismes de cuivre. La vie s'enraye. Des hommes en noir nous surveillent, leur teint poudreux, gris, marqué. Leur haleine a la douceur d'un crissement de nœud sur une route sèche. Nul ne sait qui ils sont, nul ne sait ce qu'ils veulent. D'ailleurs, nul ne sait d'où ils sont venus. Et vous? Vous étiez monsieur ou madame tout le monde jusqu'à ce que la réalité ne crache sur vous, créant la fracture dans votre vie. Employé de banque, contrôleur de métro, chanteur de cabaret, flic des rues. Un jour, quelque chose a cassé. Vous avez perdu le contrôle, vous incarnez la révolte. Qu'elle soit sociale, politique, culturelle, physique, vous l'incarnez et en faites votre raison de vivre. Ceux qui sont là des rumeurs et s'interrogent sur les manipulations et les mensonges, qui se révoltent contre les injustices. Ceux-là sont réunis en un mouvement fort et motivé, une armée des ombres venue moucheter la toile immaculée de l'hypocrisie des Twisted Fifties. Le monde est malade, il souffre, il est contagieux. Vous êtes l'antidote, car vous êtes un résistant.
Plus tôt en début d'émission, vous avez entendu une entrevue avec Richard Ryan, conseiller du quartier Myland à Montréal.
La chanson « Dans ma ville » du groupe Octobre.
Le radiothéâtre perdu dans Babylone. Et juste après la pause, l'univers du jeu de rôle rétro-futur. À venir dans la deuxième partie, la poésie urbaine, la réappropriation de nos églises.
Et pour l'instant, voici une réflexion sur l'architecture écologique au 21e siècle.
Françoise-Hélène Jourda figure de l'architecture française depuis le début des années 80. Elle partage sa carrière d'architecte et d'enseignante entre la France, l'Allemagne et l'Autriche. Représentante majeure du mouvement high-tech en France, Françoise-Hélène Jourda met ce souci d'innovation et de précision technologique au service d'une intelligence de l'architecture vis-à-vis de son environnement. En militante précoce de l'écologie, elle oriente naturellement son travail vers une architecture environnementale, dénommée alors architecture solaire ou écologique. Associée depuis 1980 à l'architecte Gilles Perraudin, tous deux réaliseront plusieurs gros projets ensemble. Un de leurs formidables projets sera la construction en Allemagne du centre de formation de Ernst Oettingen, achevé en 1999 après 8 années de recherche et d'études. Ce bâtiment unique marque une nouvelle étape dans leur carrière. Il devient rapidement une référence en matière de haute qualité environnementale. Le projet est basé sur la création naturelle d'un microclimat à l'intérieur d'une importante serre de 13 000 mètres cubes portée par une structure en pin et en béton. Les façades sont habillées de bois et de verre. Il s'agit d'un micro-environnement contrôlé, un microclimat de type méditerranéen, tempéré toute l'année et contrôlé grâce à une large ventilation naturelle, des bassins avec brumisateurs et des voiles d'ombrage. La ventilation naturelle est utilisée pour assurer le confort l'été. Afin d'obtenir à l'intérieur de la serre une température identique à l'extérieur, des systèmes très sophistiqués de ventilation permettent de réguler l'arrivée d'air et l'évacuation de la chaleur d'été. Les façades, ainsi qu'une partie de la toiture, s'ouvrent pour éviter les surchauffes. La présence d'arbres et de bassins dans la serre ajoute une sensation de fraîcheur. En hiver, grâce au réchauffement par effet de serre, les températures sont plus douces à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sur le toit, un vaste réseau de panneaux solaires permet de générer sa propre énergie électrique et fait du bâtiment une des plus grandes centrales solaires au monde. L'économie d'énergie est estimée à 23 % par rapport à des bâtiments traditionnels. Et quant aux émissions de CO2, elles sont réduites d'environ 18 %. Les eaux de pluie sont réutilisées pour l'arrosage. Sa construction se veut être à la fois écologiquement et économiquement viable. Françoise-Hélène Jourda explique qu'il s'agit d'une translation climatique avec des hivers à 0 degré et des étés entre 25 et 30 degrés, offrant un extérieur à l'intérieur dont la pluie et le vent sont exclus. Le 1er juin dernier, à l'âge de 59 ans, Jourda s'est éteinte. Cet architecte solaire, écologiste, aura été une pionnière en matière de construction responsable et maître d'œuvre de réalisation magistrale. Pour Françoise-Hélène Jourda, un architecte n'est pas seulement un créateur, mais aussi un acteur du développement à part entière, un citoyen plus responsable qu'un autre. Elle laisse comme héritage une écriture architecturale unique.
Le texte d'Alexandra Vincent, tiré de Aube, le recueil de solutions, narration et adaptation de Maud Campeau.
La ville, avec sa pollution, son itinérance, ses égoïsmes multiples, sa solitude, est un environnement dur, gris, bruyant. Les lumières magnifiques et lointaines n'arrivent pas à faire oublier la réalité du terrain ardu qui existe lorsque l'on est au pied des immeubles. Et pourtant, la poésie y a sa place. Que la ville en soit le sujet, le lieu d'épanouissement, la muse, elle a sa place dans le répertoire rimé ici au Québec et dans la vieille Europe. Histoire de créer une bulle de délicatesse dans cet univers de brut, effectuons un petit passage en revue de cette ville, sujet et lieu de poésie. La ville a inspiré les poètes. Comparée à une maîtresse capricieuse, à un bouge, aux caves noires et sales, elle a été adorée et admirée par ses lumières hypnotisantes, tout autant que décriée pour la misère qu'elle cache bien difficilement.
Le bruit des cabarets, la fange du trottoir, les platanes déchues s'effeuillant dans l'air noir. L'omnibus, ouragan de ferraille et de boue, qui grince, mal assis entre ses quatre roues, et roule ses yeux verts et rouges lentement. Les ouvriers, allant au club, tout en fumant, leur brûle-gueule au nez des agents de police. Toi qui dégoûte, mur suintant, pavé qui glisse, bitume défoncé, ruisseau comblant l'égout, voilà ma route, avec le paradis au bout.
Paul Verlaine, Le bruit des cabarets, 1870.
Le thème de la ville est souvent traité dans la poésie par opposition à celui de la nature. Si certains poètes célèbrent l'univers urbain et sa modernité, d'autres s'attachent à en souligner les aspects négatifs et opposent à la ville le rêve pur d'une nature retrouvée. Dans La plainte de Charles Cros, le personnage rêve de campagne et de verdure alors que sa maîtresse le maintient en ville, au milieu du bruit. Et ce n'est pas sans rappeler la complainte de l'habitant de banlieue qui doit affronter chaque jour le trafic pour travailler à Montréal.
Je rêve de passer ma vie en quelques coins, sous les bois verts ou sur les monts aromatiques, en Orient ou bien près du pôle, très loin, loin des journaux, de la cohue et des boutiques. Mais vous aimez la foule et les éclats de voix, le bal de l'opéra, le gaz et la réclame. Moi, j'oublie, à vous voir, les rochers et les bois. Je me tue à vouloir me civiliser l'âme.
Plainte de Charles Cros, 1873.
La ville peut être aussi comparée à un gouffre menaçant que la divinité ou le personnage religieux déifié peut protéger.
Sainte Notre-Dame a là-haut son trône, sur notre mont royal, et de là, son œil subjugue le faune de l'abîme infernal, car elle a dicté qu'un ange protège de son arme de feu ma ville d'argent au collier de neige, la dame du ciel bleu.
Notre-Dame des Neiges, Émile Nelligan.
Les murs de la ville sont autant de canevas disponibles pour celui qui s'exprime. Du graffiti aussi affreux qu'inutile sur le mobilier urbain, aux fresques murales qui embellissent le paysage de notre bien-aimé Babylone, le mur devient support de revendications et de pensées pour celui qui n'a pas droit à la parole, à celui dont les cris sont étouffés ou ignorés. Devenu tendance, l'art urbain était à l'origine un art de la transgression, allant par-delà les autorisations officielles d'affichage. Désormais rendu trendy et intégré aux galeries et aux musées, l'art urbain décore la ville de Montréal et améliore sensiblement son visage. L'aspect pictural s'accompagne parfois d'arguments et de phrases, comme ces murales sur Saint-Laurent qui rappellent le meurtre des femmes autochtones, au coin de Baudry et Sainte-Catherine qui commémorent les morts du sida, ou encore la grande fresque de Pointe-Saint-Charles, longue de 80 mètres, un projet qui était collectif et engagé. Vous vous rappellerez aussi peut-être du commando poésie, lorsque les panneaux des sponsors de Bixi se sont vus recouvrir du vers issu de poèmes de la grande littérature. Un commando qui refusait le consumérisme et souhaitait donner une place à la beauté des mots au-delà de l'argument marketing.
J'ai jamais give up, mais des fois je m'en calisse, comme quand j'écrivais de la poésie sur des chars de police.
Au-delà de la revendication, le mur porte parfois les paroles ou la poésie d'auteurs québécois. À la station Mont-Royal, le poème « Tango de Montréal » de Gérald Godin sera sans doute lu par les citadins en attente de leur bus le matin.
7h30 du matin, métro de Montréal. C'est plein d'immigrants. Ça se lève de bonne heure, ce monde-là. Le vieux cœur de la ville battrait-il encore grâce à eux? Ce vieux cœur usé de la ville, avec ses spasmes, ses embolies, ses souffles au cœur, et tous ses défauts, et toutes les raisons du monde qui l'auraient arrêté. De renoncer.
Tango de Montréal, de Gérald Godin.
Et la poésie n'est pas seulement picturale. Le slam est un mouvement né en 1986 aux USA, puis s'est diffusé en Finlande, en Allemagne, en Autriche, en Suède, puis en France. Au Québec, le slam est inscrit dans une riche tradition de lecture publique de poésie. Ces lectures-performances rassemblaient alors autant des poètes de différents courants littéraires, comme Denis Vadier, Gaston Miron, que des rockeurs-poètes comme Raoul Luguet ou Lucien Francoeur. Actuellement, la scène de slam à Montréal est dynamique, bien que peu connue encore. Il existe une ligue montréalaise de slam, qui existe depuis 2006, grâce à l'initiative de Ivy. Développé par l'artiste-performeur, le slam est désormais multiforme et se manifeste régulièrement au travers de soirées thématiques. Des slam sessions, qui offrent des scènes ouvertes hors de toute compétition, des slams sauvages et des événements spéciaux. On pourra aller d'ailleurs au Patroviste tous les deuxièmes lundis du mois pour assister à une soirée de slam. La Maison de la Poésie de Montréal assure également la promotion du genre littéraire ici, à Montréal, et organise depuis 16 ans le Festival de la Poésie. Trois-Rivières, de son côté, s'est vu attribuer le label « Ville en Poésie », une étiquette qui relève de l'initiative du Printemps des Poètes et de la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture. Jusqu'à ce jour, 63 villes ont reçu ce label, répondant du coup aux critères qui doivent être rencontrés, soit une participation au Printemps des Poètes, l'organisation d'un festival de poésie, l'affichage de poèmes dans l'espace public, la création de promenoirs poétiques et la désignation de rues ou d'établissements publics du nom des poètes. Intégrer la poésie visuellement ou au travers de prises de parole publiques, de concours et de joutes oratoires est une manière de rendre moins austère et moins triste le visage de notre environnement. Et comme le personnage principal d'American Beauty, lire quelques vers, apprécier une soirée au Patrovice ou se remémorer le répertoire d'Emile Nelligan, c'est décider de voir la beauté là où, de prime abord, elle pourrait être difficile à trouver.
Le coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent, c'est vraiment le cœur de Montréal.
Pas trop loin, il y a le Complexe des Jardins, le Théâtre du Nouveau Monde.
Le siège social d'Hydro-Québec.
Les Faux-Fonds électriques.
La Société des arts technologiques. Le Club Soda.
Il y a aussi la Maison du développement durable, qui est le premier bâtiment au Québec à atteindre le niveau LEED Platine, la plus haute distinction possible en termes de bâtiment écologique.
Il y a le Café Cléopâtre aussi, qui est connu pour autre chose.
Ouais, on peut aussi penser d'un bon shop, un resto vraiment pas bon, un dépanneur, le resto La Belle Province, des piétons partout qui traversent dans tous les sens, l'autobus qui arrive jamais à l'heure, bref, tout ce qui définit Montréal et son côté éclectique sont au même endroit.
T'oublies pas quelque chose?
Ah oui, oui, il y a CBL aussi.
Oh shit, on est en onde!
Ah!
Parfois, il n'est pas utile de regarder les gens, mais simplement de leur sourire. À la manière de Brassens, moustachu, chansonnier, revigorant et toujours frais, j'observais les chapeaux et parapluies se dégingander sous la racée surprenante de l'été pluvieux en souriant. De mon balcon, au cinquième étage, des points frappaient mes yeux à la manière de mouches. Une foule grouillante crayonnait ses chemins sur l'asphalte craquante. Les gens suaient bien plus que moi. Entre l'aguicheuse froideur des gouttes et le sournois damage de lumière qu'offrait le ciel après la pluie. La ville grouille, c'est un fait. Nous sommes des machines autogérées par des feux de circulation, des sens giratoires et tout au plus des lois. Si tant est que des phrases impératives puissent vraiment restreindre le cœur humain. Mais qu'est-ce qu'une ville mise à part son peuple ? Car il est bien plus facile à l'heure des macrostructures de parler de ville comme de pays que de pays comme de nation. Un Québécois, Nantais, Librevillois est avant tout citoyen des quelques kilomètres qui encerclent son quotidien que des milles et milles lointains et vaguement connus d'un pays qu'il ne peut pas prendre dans ses bras ni embrasser du regard. La cité, l'urbanité, les murs et les routes que sillonnent quotidiennement nos pas sont bien plus notre vie que la politique, l'administration et l'économie mondiale. Ce pauvre homme, par exemple. À l'écart de la joyeuse populace, batifolant sous les nuages dégorgés, sans parapluie, se sent-il citoyen du monde ou plutôt acteur dans son quartier ? L'homme n'est pas grand. Si l'éternel, le cosmos ou d'autres formes de puissance avaient voulu lui donner la possibilité de gérer l'immensité de l'univers, il aurait rendu infiniment grand pour qu'il le comprenne à son échelle. Au contraire, nous sommes minuscules dans le monde. Un quartier nous sied donc mieux, à nous comme au pauvre homme sans parapluie. Nos actions se voient, nous en comprenons la portée, tout est simple. Cependant, ma moustache frétille de travers. Et il me semble qu'une didascalie du maître de l'univers m'a échappé. L'homme n'est pas seul. il est multiple. C'est pourquoi il s'est regroupé, a formé des villages, villes et cités immenses. Il est aussi immense que l'univers lorsqu'il est ensemble, et la ville en est un exemple. Certes, nous sommes petits et brefs, mais tout comme la ville n'est pas uniquement les bâtiments qui la composent, nous ne sommes pas simplement nous, mais l'homme dans sa nature absolue, avec les autres, dans l'univers.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
On entend parler de plus en plus des difficultés que rencontrent nos églises. Autrefois au cœur de la vie communautaire et spirituelle de notre société, construite à l'aide des dons et du bénévolat des paroissiens, un nombre grandissant d'entre elles sont menacées de démolition. Voici donc une réflexion sur les avenues de transformation qui pourraient contribuer à faire revivre nos églises en réalignant leurs vocations et leurs activités. Les églises appartiennent au peuple. Leurs constructions furent financées et supportées par l'argent et les efforts de nos ancêtres. Elles constituent un héritage populaire et collectif qui n'est que trop rarement réclamé. Le clergé, qui fut l'administrateur de ce bien public, est techniquement propriétaire et gestionnaire des lieux de culte. Mais a-t-il l'autorité morale d'en disposer à sa convenance et d'empocher les profits de la vente? Cependant, si personne ne revendique ni ne réclame équité et transparence dans ses dossiers, peut-on les critiquer de mettre la clé dans la porte? Plusieurs églises ont su renouveler et se rentabiliser en élargissant leur vision et en mettant à jour leur mandat. L'église du Jésus, sur la rue de Bleury à Montréal, s'est octroyée le titre de centre de créativité, en est un bon exemple. Toujours administrée par les religieux, cette institution est devenue un foyer effervescent d'activités artistiques de fort variées, mariant l'art sacré avec la réalité moderne de la vie urbaine. L'église en elle-même, outre sa fonction de lieu de culte, est l'hôte de spectacles et d'événements variés. Un amphithéâtre est aménagé au sous-sol, une scène plus adaptée aux concerts populaires et une galerie d'art permet à des artistes visuels d'exposer leurs œuvres. Le Jésus est un excellent exemple d'une institution allumée qui a su s'organiser pour prospérer au lieu de se laisser sombrer dans la désuétude. Outre le Jésus, d'autres projets sont actuellement en train de voir le jour dans plusieurs paroisses du Québec. Par exemple, l'église Saint-Marc dans Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal, l'église Saint-Eusèbe de Versailles dans le centre-sud ou encore l'église Sainte-Sophie d'Halifax dans la municipalité de Sainte-Sophie souhaitent convertir celle-ci en espace multiservice. Ce patrimoine architectural collectif unique, témoin d'une autre époque, mérite selon moi beaucoup mieux qu'une transformation en condo ou pire, une démolition. Mais faute d'argent pour en assumer son entretien et à défaut d'un effort collectif pour son épanouissement, le destin de ces illustres bâtiments reste incertain. Un texte d'Étienne Beauvau, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Philippe Laramé. Le 8e épisode de Aube.
Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci. Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez 2 secondes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Jean-Baptiste Gardarin, Aurélie Superchico, Maude Campeau.
À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.